Pour communiquer avec notre studio, étoile 93.3.
Quand on a une bonne nouvelle, c'est normal de vouloir l'annoncer à tout le monde. Eh bien, voici Christian.
Un des avantages de travailler chez Ford, c'est certainement le prix employé. C'est vraiment le meilleur temps de l'année pour acheter un véhicule Ford.
En ce moment, obtenez plus de 15 000 $ en rajustement de prix Toto sur un Ford F-150 Limited 2018 et jusqu'au 31 août, les membres de Costco admissibles obtiennent un rabais additionnel de 1 000 $.
Vous payez ce que nous payons. C'est aussi simple que ça.
Les prix employés Ford, c'est maintenant. Certaines conditions s'appliquent. Visitez votre détaillant Ford ou ford.ca/PE.
Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier Cubé.
Quartier Cubé est au cœur de Sainte-Foy, près de l'université, des halls de Sainte-Foy et de l'hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrains, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers.
Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier Cubé. Contactez-nous maintenant. Visitez quartiercubé.com.
Tout est différent chez Zip International. Oubliez les divans cordés un à côté de l'autre. Chez Zip, vous visitez des pièces, des chambres à coucher, salons, salles à manger, toutes décorées, meublées, dans des styles différents. Vous voulez des idées déco? Il n'y a pas de meilleur endroit. Pour les meubles, la literie et la déco, venez découvrir les nouveautés du printemps. Et chez Zip International, ils ont les meubles Canadel personnalisables, faits à la main au Québec. Pour le meuble parfait ou le clin d'œil déco qui manquait, meubles Zip International, coin Hamel et Henri IV.
Avec Jean-Simon Buis.
FM 93.
7h35, c'est l'heure d'aller rejoindre Yves-François. Bonjour Yves-François. Yves-François? Est-ce qu'on a Yves-François qui est en ligne avec nous? Yves-François Blanchet, une fois, deux fois, trois fois. Pas dit François Blanchet.
Ben là, on le vend pas, là.
Non, on le vend pas. C'est ça, il est vendu au plus offrant. Non, mais on va aller essayer de le rejoindre au téléphone.
Oh, je pense qu'il vient d'arriver.
Est-ce qu'on l'entend, là? Yves-François, je l'entends comme en background, Carl. Je suis sûr qu'on est capable de le. On est capable de le brancher si on lève son pote, pas mal sûr. Ah, là, j'entends des oiseaux chanter. OK. Donc, c'est quoi? C'est le bois de Coulonges qu'on est allé chercher comme fond de. Pas facile de se brancher avec Yves-François dans les derniers jours.
Non, mais. Peut-être qu'il n'a pas levé le son de ses écouteurs.
Oui, possiblement. Là, on va arranger ça dans les prochains instants. Puis, dans le pire des cas, on va l'avoir au téléphone. Là, c'est arrivé une couple de reprises qu'il y a des petits problèmes techniques. C'est bien au-delà de notre responsabilité. Malheureusement, parfois, il y a des petits pépins qui se pointent à l'horizon. Mais on va essayer de le rejoindre au téléphone. Est-ce qu'on l'a au téléphone? Dans les prochains instants, on va l'avoir, Yves-François. On va y parler. Ne vous inquiétez pas. Il est là. Alors, salut, Yves-François.
Bonjour.
Oui, on t'a finalement réussi à te rejoindre via
la technologie nous fait des fariboles ce matin.
Oui, absolument. Merci beaucoup à Alexander Graham Bell pour ce moyen de rechange qui fonctionne encore très bien. On commence avec...
Je suis pas certain qu'Alexander Graham Bell avait anticipé la technologie cellulaire,
non,
mais bon.
Non, je pense pas. OK, ouais, t'es sur cellulaire. OK, c'est bien bon. On commence avec la date des élections anticipées. Il se trouve qu'on avait raison finalement au 93.
Ben oui. On fait une petite vite juste pour se flatter à Bédane un peu. Là, on s'en fait une petite vite, mais notre nouvelle était manifestement très bonne. Je dirais même que c'était pas mal la nouvelle de la journée d'hier. Hein. Tout le monde parlait de ça. Les bulletins de nouvelles arrivaient, ouvraient avec le fait que les élections allaient vraisemblablement être déclenchées plus tôt, avec la même date. Le premier ministre avait l'air du chat qui a mangé le canari. Et les ministres faisaient tous des commentaires à qui mieux. Les libéraux ont moins envie d'admettre que le motif qu'on invoquait, c'est-à-dire d'essayer de confronter François Legault à de possibles erreurs, de lui et de la gang de novices, c'est pas un défaut, on a tous une première fois, mais de la gang de novices qu'il y a dans son équipe, bon, mais évidemment, le plus tôt on commence, le plus il y a de risques de commettre des erreurs et des bévues qui vont être prises par les adversaires. Du côté du gouvernement, on parle plus de rencontrer plus de monde, de mieux expliquer le programme, puis c'est correct, mais avant le déclenchement, ils vont travailler les comtés qui peuvent pas gagner. C'est aujourd'hui... Ah oui. Philippe Couillard va être dans Matane. On s'entend que Matane a été gagné par Pascal Bérubé avec 61% des votes en 2014. Les libéraux, même dans le fantasme les plus fous, ne rêvent pas de déloger Pascal Bérubé de Matane. Même la coalition Avenir Québec, qui va peut-être s'essayer un petit peu plus fort, ne délogera pas Pascal Bérubé dans Matane. Et évidemment aussi, François Legault dit qu'il est bien content de ça. Lui, le plus vite ça commence, le mieux c'est nous autres les meilleurs.
Évidemment.
On verra bien, comme il le dirait lui-même, on verra.
Parenthèse, il faut quand même être motivé. Là. Je pense à un candidat ou une candidate là, libérale ou caquiste se lancer contre un Pascal Bérubé, mettons, dans Matane. Il faut que tu veuilles et que tu sois convaincu en petit péché de ton parti.
Tu mets ce qu'on appelle un poteau. Tu mets quelqu'un qui accepte de voir son visage sur un poteau pendant 2 mois, 5 semaines. sachant très bien que c'est chantier. C'est, si toi, tu étais candidat dans l'ouest de l'île de Montréal pour le Parti québécois, tu aurais vraiment, je te le dis là, tu étais bien bon, mais tu aurais vraiment aucune chance, mais tu accepterais pour lui rendre service. Ouais, le NPD l'a fait en 2011, à leur grande surprise. Ils les ont fait élire. Ils s'attendaient vraiment, vraiment pas à ça. Ils approchaient du monde en disant, présente-toi avec nous, on te promet que tu gagneras pas. Ça n'a pas fait.
Ça a mal tourné, finalement. Ou bien,
ils ont
ça
gagné. Fait pas de la perception. Ben, non, mais ils sont pas mécontents. J'imagine qu'ils sont pas mécontents d'y être aujourd'hui.
Exactement. Hey, t'as un scoop concernant quelqu'un qui ne se présentera pas dans la circonscription de Nelligan.
Ouais, en fait, je peux pas vous faire des affirmations absolument tranchées, mais je peux vous faire des affirmations très vraisemblables. Il y a une dame qui s'appelle Brigitte Garceau, qui est avocate chez Robinson Shepherd Shapiro. Qui serait intéressé à être candidate pour le Parti libéral dans le plus que château fort soviétique comme démocratie de Nelligan, qui était occupé par Martin Coiteux et qui l'avait auparavant été par ma collègue Yolande James. Et là, on fait un détour. Est-ce que vous connaissez ou vous vous souvenez de Beryl Wiseman?
C'est un nom qui me dit vaguement quelque chose.
C'est un personnage influent, très influent jadis, du Parti libéral du Canada, qui avait été banni à vie du Parti libéral par Paul Martin suite au scandale des commandites, même s'il n'a jamais été formellement accusé de rien. Il est revenu au Parti libéral par la porte d'à côté, dans l'entourage de Michael Ignatieff, qu'on a tous oublié, dont il pensait le plus grand pied. Et c'est d'ailleurs notre regretté collègue Jean Lapierre qui avait eu la job de Paul Martin pour expulser Wiseman du Parti libéral. Il a aussi été candidat à la mairie de Westmount en 2017, mais il a récolté un gros 8,8% des votes. Et c'est l'éditeur du Suburban, qui est une publication bien connue de l'Ouest de Montréal, qui parfois, quand ça fait l'affaire, mange du Canadien français. Et Mme Brigitte Garceau serait, pas mal fort, là, serait sa conjointe. Alors, on se dit, est-ce que les libéraux veulent vraiment la conjointe de ce personnage associé au scandale des commandites comme candidate dans l'Ouest de Montréal? C'est pas sûr. Sauf qu'ils ne le savaient pas. Jusqu'à hier, les libéraux n'étaient pas au courant que Mme Garceau était la blonde de M. Wiseman. Alors là, je pense qu'ils le savent. Et je suis pas sûr qu'elle va être candidate, la madame. Ils ont une alternative qui a aussi été rencontrée, qui s'appelle Jennifer Macarone. Macarone, je ne suis pas trop sûr de comment le prononcer, manifestement c'est italien.
Oui.
Et c'est la présidente de l'Association des commissions scolaires anglophones. Donc le profil, le fait que c'est une anglophone, parce que les gens de Nelligan ont déjà dit clairement qu'ils aimeraient bien que le prochain candidat ou prochaine candidate, puis quand tu es candidat pour le Parti libéral, tu es député, c'est fait là, soit anglophone. Même affaire dans Westmount, ils ont exprimé un désir similaire et où irait la fille du juge Gomery. Alors voilà, je pense que les libéraux vont regarder leur plan différemment dans Nelligan.
Et François, tu veux me parler du cas PKP et de son infraction à la loi électorale qui est PKP qui est dans l'eau chaude.
Oui, oui. En fait, je veux y revenir et je nous refais le rappel. Pierre-Carl Péladeau a avancé 135 000 $ de plus à sa campagne, à la direction du Parti québécois en 2015, que ce qu'il n'a recueilli comme financement populaire en vertu de la loi, c'est-à-dire un maximum de 500 $ pour une personne. Il a recueilli davantage que 200 000 $ donc on peut présumer que ses dépenses totales étaient de l'ordre de 350 000 $ Et ça, là, c'est trois fois plus que son plus proche adversaire. Il n'a pas réussi à lever ça en financement populaire. On peut même se demander s'il a déjà pensé qu'il allait essayer de le lever en financement populaire. À l'époque, il s'en allait gagner, il s'en allait être chef, probablement que ça allait bien aller. Mais il a dû s'avancer plus que ça, et ça, c'est la somme qu'il n'a pas réussi à lever en financement populaire. Il a attendu que les règles lui permettent. Il a payé lui-même la somme, donc il a remboursé la banque qui lui avait fait le prêt. Il se trouvait à se l'avancer lui-même et c'est vient avec une amende de 27 000 $ pour avoir ne pas avoir respecté la loi électorale en se finançant plus, beaucoup plus que 500 $ pour sa propre campagne. Il voulait contester ça, mais là, ce 27 000 $-là devient un peu dérisoire parce que il doit faire trop travailler ses avocats. Ils en ont échappé une parce que en admettant sa culpabilité, en étant en défaut par rapport à la loi électorale, il se trouve à disqualifier, c'est une autre grosse histoire d'hier, il se trouve à disqualifier Québécois de tout contrat public. Et il y en aurait, dit-il, pour des millions de dollars pour Québécois. Moi, je m'étonnais qu'on puisse contourner ainsi l'esprit de la loi en se finançant soi-même une campagne. Donc, on dit, si t'es riche, les règles s'appliquent pas à toi. Ça me plaisait pas trop.
C'est un peu antidémocratique. Hein.
Mais, à sa décharge, cette loi-là, la loi 1, qui a été ensuite ajustée par les libéraux, c'était pour pogner ceux qui faisaient du financement électoral à des fins de corruption ou de collusion. Pas quelqu'un qui s'en est trop payé lui-même. Fait que ça, c'est problématique, parce que là, il se trouve à être pénalisé pour quelque chose qui est sans commune mesure avec l'enjeu de cette loi-là. Alors, ça anathémise, ça exclut sa compagnie. Moi, je suis assez dur avec Pierre-Carl Péladeau, bien des fois, jamais méchamment, mais je me dis que si ça avait été quelqu'un de Radio-Canada, si ça avait été Paul Desmarais, si ça avait été Martin Cochon qui avait été pogné dans une affaire de même, le Twitter de Pierre-Carl Péladeau flamberait de feux d'artifice contre eux autres, et aujourd'hui, c'est lui qui est dans le trouble. Puis l'autre élément qui est purement anecdotique et ironique, c'est que la loi, en vertu de laquelle il se pogne, a été dans sa première version parrainée par Stéphane Bédard. Stéphane Bédard était le leader de l'opposition sous Pierre-Carl Péladeau, et Pierre-Carl Péladeau l'a dégommé comme leader. Et maintenant, ce même Stéphane Bédard va retourner travailler avec et pour Pierre-Carl Péladeau en participant à l'émission La Joute à LCN à compter de quelque part dans les prochaines semaines. Alors tout ça est un peu étonnant, mais ce que je garde comme conclusion, c'est pas acceptable que quelqu'un qui a plus d'argent ait davantage accès à des postes électifs avec sa fortune. Ça n'a pas de bon sens, on n'est pas aux États-Unis ici. Par contre, il n'est pas coupable de corruption, il n'est pas coupable de collusion, et l'application de la loi dans ce cas-ci contre Québécois semble démesurée.
Et François, merci beaucoup. On se reparle demain.
Hey, ça m'a fait plaisir.
Salut, bonne journée. Il est 7h45.
Bonsoir les sportifs. En semaine, de 20h30 à minuit. Au FM 93.
L'odeur d'une voiture neuve.
C'est un bon feeling, surtout en ce moment.
Comment ça?
C'est le décompte final chez Hyundai, la liquidation finale sur les Elantra, Tucson, Santa Fe 2018 et plus.
Plus?
Plus financement à 0% pour 84 mois sur certains modèles.
Ça, c'est une offre.
T'as du flair pour les bonnes affaires.
En ce moment, financez le Tucson 2.0L 2018 à traction avant à partir de $59 par semaine pour 417 semaines à 0,99%, 2895 $ comptant.
Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Visitez HyundaiCanada.com pour les détails.
Opinion, c'est Bouchard en parle.
Avec Jean-Simon Buis, FM 93.
93.
On a des développements dans l'affaire des Pères Maristes qu'on vous avait présenté, c'est ce printemps. C'est une mère d'un jeune de 13 ans du séminaire des Pères Maristes dont le garçon s'était fait agresser à la cafétéria en septembre 2017. Je vais vous résumer les faits puis je vais vous parler des développements importants par la suite, là. En septembre 2017, le petit bonhomme de 13 ans est assis à la cafétéria et puis il se fait interpeller par un camarade qui lui demande de lui céder sa place à la cafétéria. Lui dit non. OK. Puis en réponse de ça, il se fait agresser de façon très violente. On parle de coups sur la table, de coups de poing également. Et le jeune a subi d'importantes séquelles, d'importantes blessures. Là. On parle de fractures, on parle de commotions cérébrales sévères. Sans parler de tout ce qui est psychologique autour de ça, les conséquences psychologiques, vous pouvez vous imaginer de se faire attaquer comme ça brutalement dans une cafétéria, ça fait aucun sens. Et par la suite, les conséquences du jeune agresseur avaient été 3 jours de suspension. Mm-hmm. On avait déterminé que comme c'était une première offense, puis blablabla, puis dans le protocole, c'est comme ça qu'on fonctionnait avec un geste de violence. C'était 3 jours de suspension. Puis après ça, on l'avait ramené dans le fond scolaire sans aucun autre avertissement.
Exactement. Et pendant ce temps-là, la victime ne pouvait plus pratiquer son sport. Elle était à l'hôpital. Ouais,
parce que les deux jouaient dans une équipe sportive. Ouais.
Exactement. Ouais.
Et lui s'est retrouvé donc à fréquenter le même jeune dans les couloirs, puis un peu partout. Puis il était plus capable d'aller à la cafétéria parce qu'il se sentait pas bien. Puis l'attention est devenue vraiment trop importante pour lui à l'école, à un point tel que lorsqu'on a parlé à la mère, il y a de cela, on l'appelle Caroline, la mère Caroline, il y a de cela quelques mois, un peu avant la fin de l'année scolaire, elle avait mentionné « Mon garçon, je ne peux plus l'envoyer au Père Mariste. J'ai fait le choix, on a fait le choix de le retirer de l'établissement. » Donc, de sortir le drapeau blanc parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de conséquences pour le jeune, puis que les conséquences psychologiques, les séquelles étaient trop importantes pour son garçon. Alors, c'est son bien-être qui est passé en avant. Comme la direction n'a pas fait son travail, en tout cas d'après elle, ben, elle a décidé de retirer son enfant de la classe.
Et de souvenir, là, je m'avance, mais il y avait une lettre d'excuse aussi qui avait été demandée d'être rédigée pour donner à la victime, puis on n'aurait jamais vu cette lettre-là. Là. Elle n'aurait jamais été entre les mains de la jeune victime.
Il reste plusieurs éléments nébuleux dans cette affaire-là, effectivement. On a vu la version du père de l'agresseur à certains moments aussi, qui divergeait de certains points, mais qui confirmait par contre que le jeune avait été accusé, jeune, donc l'agresseur avait été accusé de voies de fait et de lésions corporelles. Et on apprend dans Le Soleil ce matin que le jeune a été reconnu coupable en chambre de la jeunesse de ces deux chefs d'accusation. Donc, voie de fait et lésion corporelle. Or, ce qu'on apprend également, c'est que Caroline avait reçu une assurance de la part de la direction des Pères Maristes que le jeune serait renvoyé s'il était déclaré en chambre coupable en chambre de la jeunesse. Donc, on le retirerait du séminaire des Pères Maristes. Et c'est pas le cas. Le jeune va retourner à la rentrée au séminaire des Pères Maristes comme si de rien n'était, sans que la victime, sa victime, ne soit là. Alors, c'est sa victime qui a perdu et c'est lui qui a gagné.
Oui, mais c'est encore nébuleux. T'sais, on dit qu'elle craint qu'il retourne parce que, justement, le directeur ne se commet pas là-dessus. Il n'avance pas grand-chose. Toujours nébuleux encore dans ses explications. On commence à douter là, vraiment de la gestion de cet homme-là. T'sais, je veux pas lui dire... je veux pas dire que c'est un mauvais gestionnaire, mais
moi, c'est sérieusement, son silence aussi. Là... Moi, c'est son silence parce que depuis le début de l'été, pratiquement, qu'on parle du séminaire de Père Maris dans une autre affaire, celle des photos explicites qui ont été partagées là, par d'autres étudiants.
Et là, il y a quand même l'excuse de dire, ben, c'est en enquête, peut-être qu'il n'y a pas le droit de parler. Mais dans ce cas-là, l'enquête est terminée, il est reconnu coupable et là, les décisions doivent être prises.
Mais c'est en enquête, je veux bien croire, là, mais je m'adresse aux parents. Là. Vous êtes parent d'un enfant qui fréquente une école comme ça, où est-ce qu'il y a eu une sévère agression avec des importantes séquelles, où la punition, c'est 3 jours de suspension, où il y a eu partage de photos explicites par des jeunes, puis des jeunes filles ont été atteintes par ça et que les jeunes n'ont pas eu non plus de conséquences importantes. Avez-vous le goût de le renvoyer, votre enfant, dans cette école-là? Avez-vous le goût de réinscrire votre enfant à une école XYZ? Et là, là c'est le séminaire des Pères Maristes, OK? Ça aurait pu arriver à n'importe quelle école de la région de Québec, à n'importe quelle école de la province. Les événements. Les événements en question, des événements d'intimidation, des événements d'agression, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Il n'y a personne qui est à l'abri non plus de la cyber-intimidation, du partage de pornographie juvénile par des jeunes. Tu peux pas t'assurer que la sécurité soit parfaite dans ton école. Par contre, quand tu as le gros bout du bâton et tu es directeur de l'école, tu peux t'assurer que la gestion soit bonne. Oui. Que la gestion de crise, que tu sois là pour faire face au tir lorsqu'il se passe quelque chose comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on va tester ton étoffe. Qu'on va tester si tu es quelqu'un à qui tu as le goût qu'on confie tes enfants. Parce que si tu fais comme M. Sylvain dans ce cas-ci, François Sylvain, puis tu fais juste te terrer dans des réponses qui n'ont pas particulièrement de substance, comme nous traitons ce dossier complexe avec le doigté que commande la situation, ce que Vest aurait pu me dire par rapport à n'importe quoi, puis j'aurais pu dire par rapport à n'importe quoi aussi, qui démontre que tu n'es pas nécessairement plus préoccupé que ça par la situation. Je m'excuse, mais ils vont perdre la confiance de plusieurs personnes.
Ben, je pense que c'est déjà commencé. Moi, j'aurais tendance à vouloir savoir combien de parents ont inscrit leur enfant au séminaire des Pères Maristes pour la rentrée de 2018. L'autre affaire qui m'inquiète, moi, c'est quand c'est rendu qu'il faut prendre la main du directeur général de l'école. Ce que je veux dire par là, c'est que Sébastien Proulx s'est prononcé hier en disant, regardez, on va demander au ministère de l'Éducation de faire une enquête interne par une lettre. Et il y a aussi le directeur général des établissements privés au Québec qui s'est prononcé en disant, hey, je trouve que la gestion est un peu boboche dans ces cas-là, surtout celui des photos explicites. Et justement, ça nous inquiète parce qu'on a l'impression que la mobilisation de l'équipe école n'a pas été dans le processus. On dirait que c'est seulement de la gestion du directeur, puis la gestion ne se fait pas. Moi, quand c'est rendu à demander à prendre par la main quelqu'un qui se posait en tête, puis d'avoir la possibilité de prendre des décisions et de bien le faire, Colin, pourquoi il est encore en poste? Il n'y a personne qui peut. Qui est au-dessus de lui, ce directeur général-là? Qui pourrait lever la main, prendre la parole pour lui ou encore l'obliger à prendre la parole. Il y a ça aussi.
Ben là, c'est rendu, je pense, la direction de l'enseignement privé puis le ministère de l'Éducation. Je pense qu'on est rendu là. Puis c'est pour ça qu'ils ont envoyé les lettres. Parce
ben, qu'ils sentaient beaucoup de chance.
Les initiatives. Mais c'est pas des événements qui se sont produits la semaine dernière.
C'est ça l'affaire.
C'est des événements qui datent. Celui de l'agression à la cafétéria date de septembre 2017. Ça fait un an.
Et pour moi, chaque jour est une chance de se prononcer. Donc, à chaque jour, tu as perdu une chance de plus de faire bien faire ton travail.
Il est déjà trop tard dans ce cas-ci parce que l'enfant, il est parti de l'école. C'est lui qui a perdu, puis c'est lui qui a dû faire profil bas puis s'en aller.
Victime en tous sens.
Victime dans tous les sens.
Il y a c'est ce que je trouve le plus aberrant dans tout ça. C'est qu'on protège l'agresseur, puis on protège pas du tout la victime.
Puis depuis le début, en plus de cet événement-là.
Au nom de la justice, parce que c'est ça qu'on va dire, il faut être juste dans nos punitions, tout ça, dans nos châtiments. hâte, c'est quelle est la justice de laisser un jeune qui a été victime d'une sévère agression, qui subit des séquelles physiques et psychologiques, en plus d'être obligé de se déraciner de son milieu parce qu'il est terrorisé. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce séminaire-là présentement, dans cette école-là, et qui va faire en sorte qu'ils vont perdre leur image.
Et en plus, on prône le fait qu'on est supposé de faire en sorte de créer de la jeunesse, l'élite dans ce type d'établissement-là, qui est l'établissement privé. Et là, le séminaire aussi, depuis des années, disent qu'ils sont vraiment que c'est vraiment une bonne école pour la jeunesse. Puis tu vas aller au privé, tu vas être quasi meilleur. Là, c'est ce qu'on entend, c'est ce qui
découle. Oui, parce que tu t'attends à ça quand les parents, ils payent pour envoyer leur enfant au privé. C'est parce qu'ils font pas confiance à quelque part à l'école publique. Des fois, c'est pour des bonnes, d'autres des moins bonnes raisons. Là, mais c'est pour s'attendre à avoir quelque chose de supérieur comme service.
Tu es supposé être mieux encadré. Tu es supposé avoir des gens qui sont plus compétents autour de toi, qu'il y a un encadrement plus serré envers l'individu et non un groupe d'individus. Puis à ce qu'on voit, c'est pas du tout le cas.
Le message qu'on envoie, c'est... Si vous êtes agresseur, si vous commettez une faute grave, on va vous pardonner. Mais si vous êtes une victime, vous arrangerez avec vos troubles. Arrangez-vous avec vos troubles.
Puis, tu sais, sérieusement, on a beaucoup de commentaires depuis ces événements-là, à savoir, est-ce qu'il y a de l'argent derrière de ça qui pousse un peu les gestes de la direction de réintégrer les élèves? On va pas aller jusque-là, mais je comprends les questionnements.
C'est sûr, parce que tu te poses la question, pourquoi c'est, il y a rien de logique là-dedans. Il y a rien de logique, il y a rien de compréhensible dans la façon que cette crise-là est gérée, que ces crises-là sont gérées. Parce qu'il faut parler au pluriel, c'est bien plate, mais en un an, ça fait deux crises majeures au séminaire des pères.
C'est ça, on parle pas d'une bataille de nourriture ou encore quelqu'un qui a insulté un autre élève ou de l'intimidation qui arrive.
Puis sur le coup, ils réagissent, puis sur le coup, ils donnent des commentaires, puis après ça, on n'entend plus rien, c'est silence radio.
Sur le coup, OK, oui, mais premièrement, c'était sous des menaces. La fois des photos explicites, il me semble que c'était on s'en va dans les médias. Puis même chose la première fois, on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire-là si c'était pas de la mère qui avait contacté.
C'est vrai.
Puis on a eu un communiqué quelques jours après. Dis-moi pas qu'ils sont proactifs, là.
Non,
puis imaginez l'ambiance. Imaginez l'ambiance là, quand les cours vont reprendre fin août, début septembre, là, quand l'agresseur qui a été trouvé coupable. Comme je disais tantôt, je veux pas y imposer une peine à vie. Mm-hmm. Mais les autres enfants qui le connaissent vont le côtoyer, vont connaître l'histoire. Ça va être quoi l'ambiance? Tu sais, je sais pas, ça marche pas, là.
C'est que tu t'es disqualifié. Je me sens dans un contexte de travail. Imagine que dans votre milieu de travail, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de similaire. Quelqu'un arrive puis commet des voies de fait sur un de ses collègues. Pensez-vous qu'il va avoir une tape sur les doigts, trois jours de suspension qui va revenir, puis après ça, l'autre va s'en aller parce qu'il a été intimidé, puis il n'y a plus question de travailler ensemble? Ben, vous pensez que ça se peut qu'il soit renvoyé? Tu sais, il n'y a pas de raison pour qu'une personne comme ça puisse retourner dans l'école. Puis, je m'excuse, mais le geste qu'il a commis, il est difficilement pardonnable, en tout cas dans un contexte académique.
Tu sais, il y a Dave qui nous écrit, c'est la chambre de la jeunesse qui va donner une sentence. C'est pas l'école, c'est pas un tribunal, l'école. Je comprends votre commentaire, je comprends votre raisonnement aussi. Cependant, au moment où il est reconnu coupable, il faut qu'il y ait des sanctions supplémentaires, surtout que sa victime aurait probablement resté dans les murs de l'école. Au moment où tu prônes plus l'agresseur que la victime, là, j'ai un problème. Quand tu as été reconnu coupable.
Tu t'attends à ce que ton enfant soit dans un milieu sécuritaire, qu'il soit dans un milieu où la confiance règne avec la direction de l'école. Mm-hmm. Je veux pas laisser supposer qu'il va y avoir d'autres incidents du genre, mais au niveau de la confiance envers la direction, je suis pas sûr que ça va se passer de même. Là.
Non, puis tu sais qu'il y a des jeunes dans l'école qui ont partagé des photos explicites qui vont être encore là.
Oui.
Puis tu sais qu'il y a un jeune qui a agressé un autre à la cafétéria violemment qui va être encore là.
Oui.
Donc, ça fait déjà quelques individus que j'ai pas nécessairement le goût que mon enfant fréquente.
Non, puis aux arguments de dire, écoutez, là, c'est eux qui ont eu, par exemple, la situation à l'école. Peut-être que c'est eux qui vont être en mesure de mieux gérer le jeune parce qu'ils connaissent son comportement, ils connaissent aussi toute la situation. Sauf qu'à un moment donné dans la vie, ça se peut qu'il y ait des portes qui se ferment à toi si tu as de mauvais comportements. Refais ta vie ailleurs, reprends ça à zéro parce que c'est peut-être une erreur de jeunesse.
Rebondis-toi.
Pas capable justement de contrôler sa colère. Ça vient de où ça? Peut-être un suivi psychologique pour le comportement de ce jeune-là. Mais fais-le ailleurs parce que malheureusement, cette porte-là vient de se fermer. C'est la conséquence de tes gestes.
Oui, puis ça aurait été un bien meilleur apprentissage, un bien meilleur message lancé en général aux élèves du séminaire et à la société que ce qu'on fait présentement du côté de la direction. La suite? D'ici le 20 août, normalement, parce que c'est l'espèce d'ultimatum qu'on a donné du côté du ministère de l'Éducation. On a demandé au séminaire de faire un plan convaincant de lutte à l'intimidation et à la violence en lien avec les photos explicites. Mais on s'entend que ça va comprendre aussi ce qui s'est passé avec le jeune de 13 ans à la cafétéria. Donc, on devrait en savoir plus d'ici la fin du mois. 7h57.
Hey, l'été, c'est pour posant, hein?
Ah, oh, mais ça!
Imaginez un endroit où vous auriez du temps pour lire le roman que vous avez jamais le temps de finir, écouter la télévision, faire la sieste.
Ça serait génial!
Ben, c'est possible!
disponible chez Syneos Health.
Vous êtes âgé de 18 ans et plus? Ne prenez pas de médicaments? Faites comme des milliers de personnes et participez à une étude clinique chez Syneos Health. Recevez jusqu'à 3000 $ cet été. Inscrivez-vous à monétudesyneossanté.com, monétudesyneos.com. Contribuez avec nous à la médecine de demain.
À compter du 17 octobre, le cannabis sera légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis pourra en vendre. Un adulte pourra posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où ce sera interdit. On ne pourra pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, et bien sûr, on ne pourra pas conduire après en avoir consommé. Pas de risque à prendre. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Boucher de métier depuis 35 ans. Sur le bord de ma retraite, ma petite maison presque finie de payer, même qu'on avait commencé à planifier un voyage, ma femme puis moi.
Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans.
Puis bang, j'ai eu le cancer. Ensuite, des problèmes d'argent. J'ai dû faire une proposition de consommateur. Mais aujourd'hui, je suis retombé sur mes pattes.
Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites-le 1-855-R-CHABOT. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi.
Avant Duproprio, les gens payaient une grosse commission. Heureusement que les temps ont changé. Découvrez comment Duproprio peut vous aider à vendre votre maison sans commission lors d'une séance d'information gratuite le 14 août au Centre des congrès et d'expositions de Lévis dès 19h30. Détails sur duproprio.com.
Vous voulez économiser sur votre équipement de hockey? Venez profiter des méga rabais chez EcoSport. Les patins CCM TAC 40-92 sont à seulement 139,99. Aussi 2000 pantalons, épaulettes, jambières et coups d'usagers pour enfants à 9,99 $. EcoSport, Québec et Lévis.
Salut, c'est David de chez Lebeau. Vous pensez qu'on fait seulement de la vitre d'auto? Mais plus maintenant. On a du nouveau. On répare aussi les bosses et les éraflures. On identifie la couleur avec une technologie de pointe. On fait un travail de précision et votre éraflure disparaît. Le risque de rouille aussi. Tout ça le jour même de votre rendez-vous. C'est facile. Allez sur lebeau.ca et vous recevrez une soumission en 24 heures. Confiez-nous votre véhicule et on s'occupe de tout. Détails sur lebeau.ca.
Lebeau.
Le FM 93, c'est de l'actualité, c'est de l'opinion, c'est du sport, c'est des collaborateurs de tous les milieux.
Une radio Cogeco Média.
FM 93.
Audace, crédibilité, Québec.
FM 93.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle. Avec Jean-Simon Buis.
8 heures pile au FM 93, c'est mercredi, c'est encore l'été et on le sent à l'extérieur, c'est encore très chaud. Et dans le trafic, on connaît certains points chauds. En tout cas, il y avait un petit problème du côté du Pont-Pierre-Laporte. Ça va-tu mieux un peu? Ou
Non, il y a encore un bon ralentissement là, à l'entrée des échangeurs qui viennent au Pont-Laporte en direction nord en raison de travaux d'asphaltage qu'on a eu cette nuit. Puis ça fait en sorte qu'il y a des nivellations là, entre les parties pavées et les parties qu'on n'a pas encore pavées. Ça fait que les gens ralentissent avec raison, mais donc il faut juste être patient parce qu'il y a une bonne file d'attente sur la 73 là, avant de traverser l'autoroute 20. Il y a une petite attente sur la 20 en direction est également. Sur la rive nord, véhicule en panne, Henri IV direction sud à la hauteur de Versant Nord, donc en montant la côte vers les ponts. La voie de droite est bloquée, ça cause pas trop de problèmes. Et capitale direction ouest entre Laurentienne et Pierre-Bertrand, en raison du trafic qui descend de Laurentienne, il y a un petit ralentissement de rien.
La circulation présentée par Paquette Nissan à Lévis. Vous voulez vous équiper pour l'été avec le tout nouveau Kicks à partir de 17 998 $? Paquette est le seul à en avoir un grand inventaire.
Le jeune garçon qui avait agressé un collègue des Pères Maristes a été reconnu coupable en chambre de la jeunesse. Celui qui avait frappé à la tête à 3 reprises sur la table et asséné 2 coups de poing à sa victime a été reconnu coupable de voies de fait et de lésions corporelles. La mère de la victime de 13 ans craint que l'agresseur de son fils soit admis dans l'établissement à la rentrée scolaire. Au soleil, elle affirme avoir l'impression que la direction banalise la situation. Une nouvelle tique asiatique qui a le potentiel de tuer ses victimes pourrait faire son entrée au Québec, selon ce que rapporte le Journal de Québec. Bien que cette tique qui n'ait pas encore été repérée au Canada, les biologistes croient qu'elles finiront inévitablement par s'installer et devenir endémiques. Le département américain de l'agriculture a appelé les éleveurs à redoubler de prudence face à cette menace. La tique en question s'attaque au bétail, mais aussi aux humains et peut transmettre une variété de maladies. Et finalement, les Hells Angels participeront à un immense rassemblement cette fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Plus de 700 membres du groupe de motards criminalisés provenant de partout au Canada devraient s'y retrouver. Comme pour chaque événement de ce genre, les policiers se feront bien présents.
Au tennis, à la Coupe Rogers à Toronto, victoire pour le jeune Québécois Félix Auger-Aliassime qui fête ses 18 ans aujourd'hui. Hier, il a battu le Français Lucas Pouille en deux manches. Victoire également pour Denis Shapovalov sur Jérémy Chardy. À Montréal, chez les dames, Eugénie Bouchard, ennuyée par une blessure à un pied, s'est inclinée contre Élise Bertens. Victoire hier soir pour Françoise Abandant en deux manches contre la Belge Kirsten Flipkens. En Formule 1, le père de Lance Stroll, Lawrence Stroll et un groupe d'investisseurs sont officiellement devenus hier propriétaires de l'écurie Force India. Donc, on devrait voir Lance avec cette équipe-là la saison prochaine. Et au baseball, victoire des Capitals 8-0 hier contre les Boulders à Rockland.
C'est nuageux et gris ce matin, mais ça devrait se dégager plus que ça, alternance soleil et nuages. C'est ce qu'on prévoit pour la journée avec un faible risque d'orage et de pluie. 40%, c'est très peu. Maximum à 26 degrés, mais avec l'humidex, ça pourrait monter jusqu'à 31. C'est pas la journée des grosses mises en pli. Demain, jeudi, ce sont des averses et à partir de vendredi, c'est du soleil jusqu'à mardi prochain. Actuellement, à Québec, c'est 20 degrés.
On va jaser pelouse et gazon dans les prochaines minutes parce qu'il y a un article dans le Journal de Québec ce matin concernant un couple de Saint-Émile qui a choisi de laisser faire la tondeuse et l'entretien de la pelouse. Je vous parlais la semaine passée d'un ennui que j'avais eu avec des bébites, là, des punaises de céréales que finalement j'ai réussi à faire partir grâce à l'intervention de spécialistes dans le domaine. Donc eux ont décidé, on se préoccupe pas de tondre la pelouse, de mettre des pesticides, de s'occuper de tout ça. On va installer un gazon synthétique dans une cour. Puis je vous avoue, j'avais pas vraiment entendu parler de ça dans la région, des gens qui installaient du gazon synthétique sur leur terrain. Ce serait interdit par la Ville de Québec. Pour en discuter et pour voir un peu le fond de l'histoire et les conséquences que cette installation-là peut leur amener, on va aller discuter avec Martin Dignard, qui est propriétaire de cette résidence à Saint-Émile. Bonjour, M. Dignard.
Bonjour.
D'abord, parlez-nous de votre décision d'avoir installé du gazon synthétique. Vous avez fait ça quand? Puis ça a coûté combien?
Bien, c'est l'année passée. Nous autres, on a décidé de faire ça. Moi, à tondre la pelouse, ça me donnait des allergies. Le fils à ma femme, la même chose. Ensuite, je voyais les gens utiliser du Roundup, des produits chimiques, qui s'en allaient dans la nappe phréatique. J'étais vraiment contre ça. Puis je trouvais que l'allure du gazon synthétique s'était grandement améliorée. Je trouvais que la qualité était excellente. Et puis, j'ai fait la décision. J'ai fait appel avec un professionnel, un terrassement portugais. Et puis, monsieur est venu voir ça. Il dit oui, c'est possible. Et puis, j'ai posé la question même. J'ai dit, est-ce que c'est correct, c'est réglo? Ben, il dit, j'imagine que oui, parce que j'en ai fait à plusieurs endroits à Québec, dans le Ménil, dans le centre-ville de Québec, puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Au contraire, les gens trouvent ça super. Et puis, c'est ça, on a fait l'installation, et pas longtemps après, je dirais un mois après, on a déjà reçu une première lettre d'infraction à ce sujet. Dans la ville de Québec.
Il y a un inspecteur qui est passé ou comment les gens sont d'abord rendus compte? C'est une dénonciation?
Oui, bien, écoutez, à savoir si c'est une dénonciation ou c'est la job de l'inspecteur, ça, je veux pas faire un procès là-dessus. Chose que je sais, c'est que l'inspecteur est passé une première fois pour nous aviser de l'infraction. Nous autres, on est tombés sur le derrière, ma femme et moi, parce que c'est un investissement quand même de plusieurs milliers de dollars. Faut comprendre qu'en dessous du gazon synthétique, il y a une préparation. Il y a 8 pouces de 3 quarts et 1 pouce de 1 quart net sur le dessus pour faire en sorte que l'eau s'évacue d'une façon correcte. Et puis, c'est pas la même préparation que si on met du gazon naturel, là.
Non, c'est clair. Puis vous avez mis ça en avant puis en arrière, les deux partout sur le terrain?
Oui, nous autres, on a mis ça super propre, en avant comme en arrière. On n'a pas... oui, écoutez, on a fait ça. Et puis, c'est ça, on a eu un premier constat d'infraction, là, si je ne me trompe pas, c'est le 25 octobre 2017. Oui, par Mme Julie Auclair, technicienne du bâtiment et de la salubrité à la Ville de Québec.
Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement qui contrevenait? Comment on vous a expliqué que ce n'était pas permis d'avoir du gazon synthétique?
Bien, c'était... Au début, moi, en tout cas, c'était vraiment pas clair, là. J'ai demandé l'article qui fait mention de ça, et puis c'est l'article 478 du règlement. En passant, moi et ma femme, on a fait comme une petite recherche rapide sur Internet pour voir à la ville, puis on n'avait rien trouvé. D'ailleurs, même notre conseiller municipal, Steve Verrette, a fait la même démarche pour nous dire la même réaction, c'est-à-dire que lui, avec, il avait la misère à trouver de l'information à ce sujet pour dire à quel point c'était pas évident. Puis, par la suite, la dame inspectrice, elle s'est donné le mandat de nous envoyer là, le fameux règlement qui interdit. Effectivement, c'est clairement spécifié que la superficie quartier d'un lot ne doit pas, n'est pas occupé par une construction, une aire de stationnement ou une allée d'accès, une aire de jeu ou un boisé ou un aménagement doit être végétalisé. Alors, l'installation de gazon synthétique est prohibée à Québec.
OK, mais est-ce que vous auriez pu, par exemple, avoir une proportion d'arbres ou de plantes dans une plate-bande sur le terrain puis mettre le reste en gazon synthétique ou c'est vraiment juste le gazon synthétique qui est interdit tout court?
Bien, le gazon synthétique est interdit tout court. La loi spécifie que tu dois avoir 20 % de ton terrain. La superficie totale, tu dois avoir 20 % de végétalisation, ce qui était déjà le cas. Parce que nous, à Saint-Émile, ça s'appelle les boisins Saint-Émile, puis ça porte bien son nom. Il y a un boisé à l'arrière de notre cour qui, c'est super, là. Moi, je suis 100 % pour ça. Là. On laisse tout le boisé à l'état pur. Et puis, seulement que ce boisé-là, sans compter ma haie de cèdre, sans compter les arbustes, sans compter les fleurs que j'ai mis, seulement que cette partie-là à l'arrière de ma cour, ça donne le 20 % auquel je suis supposé d'avoir, là, que je suis obligé d'avoir. Alors, seulement la cour arrière, là, avec le boisé que j'ai laissé intact, j'ai de l'eau. Pour ce qui est du reste, on me dit, vous pouvez mettre n'importe quoi, sauf le gazon synthétique.
Vous pourriez mettre des roches, du gravier, ça serait correct?
Oui. Ah, pire que ça, si j'enlève mon gazon synthétique, là, en dessous, c'est du caillou, là. Je laisse ça comme ça, gris, là, lettre, là. Je suis réglo.
Ben voyons.
Je suis réglo.
C'est ridicule. Mais c'est un peu innocent.
C'est ridicule, hein?
Oui, c'est complètement ridicule.
C'est très ridicule.
Est-ce que vous avez un recours quelconque, là, par rapport à ça? Vous êtes vraiment obligé de...
Ouais. Aucun. On a eu une rencontre avec notre conseiller municipal, Steve Verrette, qui en revient pas. Lui, il est allé souvent en Floride. Il dit, tiens, plus beau que ce que je vois en Floride. Moi, quand je suis allé à Las Vegas, évidemment qu'il y en a partout à Las Vegas. Moi, j'ai parti à rire quand la dame de la ville m'a dit, écoutez, c'est parce que ça dégage beaucoup trop de chaleur. Bon, j'ai souri en coin, je me suis dit, hey, prévenez vite le Las Vegas, le Nevada au complet, la Floride, ils vont passer au feu.
Ouais, puis on fait quoi avec l'asphalte juste en avant de la maison chez vous? L'asphalte dégage la chaleur aussi, là? Pas mal plus?
C'est tout ça.
Mais un règlement puis, qui ne tient pas debout, ça se change, me semble? Y a-t-il des pressions que vous pouvez faire pour le changer, ce règlement-là?
Ben, je suis exactement en train de faire ça avec vous autres, puis le Journal de Québec, puis Radio-Canada, puis vous autres, la FM 93. C'est la seule chose qu'on m'a dit, c'est écoutez, essayez d'avoir l'opinion publique de votre côté. Et en ayant ça, peut-être que vous allez réussir à faire changer les choses. Puis je suis pas chanceux, parce que si j'habitais à l'ancienne Lorette, j'y aurais droit.
Oui, parce que Saint-Augustin aussi, je pense que c'est permis.
OK, parce que ça dégage pas de chaleur. C'est pas le vent que c'est parce que ça dégage pas de chaleur dans son arrêt de Saint-Augustin.
C'est pas le même climat.
Non, c'est ça.
Et voilà, c'est pas le même climat qu'à Saint-Émile.
Ouais. Et honnêtement, là, je suis de votre bord parce que à chaque fois que je tombe en gazon, je me dis, il faudrait si je gagnais une loterie, je le ferais moi aussi. Je mettrais du gazon synthétique.
C'est justement ça que l'entrepreneur me dit, écoutez, on en vend rarement parce que effectivement que c'est cher. Mais moi, personnellement, j'ai la chance de faire un bon métier qui me permettait de me l'offrir. Puis, l'effet que moi je voyais, écoutez, là, je suis entouré de gens qui ont du gazon, là, qui sont pris avec des verres blancs. Il y en a d'autres qui font appel à des experts qui utilisent des produits chimiques, j'imagine qu'ils sont pas très bons pour la nappe phréatique. Alors, je peux facilement voir là, les problèmes que ça peut occasionner. C'est beau aussi, je suis d'accord, je suis pour la verdure, moi aussi. Là, écoutez, là, je suis pas un monsieur là, 100% plastique. Là. J'ai 20% de boisé derrière ma maison, j'ai mis des arbustes, j'ai mis des fleurs, j'ai une tête, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis pas monsieur, écoutez, il faut tout foutre en l'air la végétalisation. Au contraire, je suis pour les plantes, je suis pour les fleurs. Chez nous, c'est de toute beauté. Mes voisins sont venus voir, ils en reviennent pas. Ils disent, voyons, c'est super beau, c'est super esthétique. J'ai choisi un gazon très cher, justement, pour qu'il ait l'apparence d'un vrai. Puis c'est ce que tout le monde me dit. Félicitations, vous avez fait vraiment quoi de beau.
Puis là, ça va vous coûter combien faire retirer ça? Puis, advenant le cas où vous le gardez, c'est quoi les conséquences?
Je souriais ce matin parce qu'à Radio-Canada, M. Martin, le fils de Joachim, avec qui j'ai fait affaire, s'est fait poser la question, allez-vous arranger le problème de ce couple-là à vos frais? Puis il y a eu un silence. Ouais. Évidemment qu'on va discuter ensemble, qu'on va en arriver à quelque chose. En passant, là, l'entrepreneur... il a fait ça de bonne foi. Écoutez, il a pas fait exprès pour me mettre dans le trouble. Puis moi, j'ai rien contre. Puis on a eu une première discussion, moi et Joachim. Là, et puis je peux vous dire que cet homme-là est très sympathique, très gentil. C'est un type charmant. Puis je sais qu'il va m'aider à régler la situation. Et la situation, là, c'est pas d'enlever ça, là. Ça n'a aucun bon sens.
Non,
c'est que le règlement doit changer. Le règlement doit tout simplement changer. Puis c'est en faisant pression avec votre aide, comme vous le faites ce matin, vous nous aidez à dénoncer cette situation-là. Moi, le pire de tout, c'est quand ma mère m'a appelé pour m'annoncer qu'à la bibliothèque Gabriel Auroi, il y en avait.
Oui, puis il y en a pas mal à part de ça.
Il y en a pas mal à part de ça. Alors moi, j'ai répondu, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou.
Mm. Oui, il y a une certaine logique à ce que vous êtes. Là, vous avez parti une pétition, hein, M. Dignard, en plus?
Oui, on est rendu à presque au-dessus de 100 noms. On avait 70 avant que les journaux se présentent. Puis là, je pense qu'il y a même ma femme a reçu des emails. On va aller signer votre pétition, donnez-nous l'adresse.
Bon, ben parfait. Puis allez-vous vous présenter au conseil municipal?
Ben, écoutez, c'est sûr que ça va donner suite à quelque chose. Moi, je suis prêt à me présenter n'importe où. Moi, je suis prêt à me présenter n'importe où. Moi, autant que quelqu'un m'aide à être logique dans cette histoire-là puis à garder mon gazon synthétique, je suis prêt à faire n'importe quoi.
Monsieur Dignard, merci de nous avoir parlé ce matin, puis bonne chance.
Ça m'a fait plaisir, puis merci de votre précieux coup de main.
Ça fait plaisir, Monsieur Dignard, parce que bon, il y a des questions de bon sens des fois, là, surtout quand c'est des situations de exceptionnelles comme ça, là, on peut trouver des terrains d'entente. Merci beaucoup, Monsieur Dignard. Au revoir. Et non, c'est ça, regarde, dans ce cas-ci, honnêtement, là, il y aurait peut-être moyen de trouver un entre-deux intelligent, là. Je veux dire, je pense pas qu'il nuit tant que ça, puis je pense pas non plus qu'il y ait une épidémie de gazon synthétique à Québec. Ça coûte cher, il l'a dit, ça coûte 8 000 $.
Ça saute pas de l'autre côté, là, chez
non,
le voisin.
Non.
Mais moi, ça me fait penser au condo, là. On dirait que t'es pas chez toi quand t'es chez toi.
Ouais,
t'as toujours
ça.
Des limites, puis tu sais, les raisons sont toujours nébuleuses ou étranges ou ridicules. À un moment donné, est-ce
moi,
que
moi, c'est
le
fait qu'il dit tu pourrais mettre du pays, là. T'sais, littéralement, il pourrait tout enlever.
Qui veut du pays? Pour moi, ça s'envole au vent. Ça va partout.
Il pourrait mettre des cailloux. Il pourrait mettre n'importe quelle cochonnerie, puis ça serait correct.
Ah oui, des cailloux du pays. Là, ça se ramasse chez le voisin, puis ça crée des chicanes de voisins. Je ne suis pas sûr que tu veux plus gérer ça, là.
Non, c'est clair. C'est... Puis tu lis les raisons dans le texte du Journal de Québec pour lesquelles c'est interdit. Très peu de valeur environnementale pour des fins résidentielles. T'as mieux des insecticides puis de l'herbicide quand t'as des pissenlits.
Ouais, c'est ça.
Puis quand t'as des trous de marmotte puis de ratons laveurs puis des nids de guêpes dans le terrain comme j'ai chez nous, là, c'est ça.
C'est parce que tu l'entretiens mal, ton gazon, c'est de ta faute.
De toute manière, c'est tellement un choix personnel. Si lui, il souhaite avoir du gazon synthétique, parfait. Moi, personnellement, j'en aurais jamais. Mais ça, c'est justement, c'est pas une épidémie, là.
On a-tu le droit de choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut sur notre terrain? 8h14.
FM 93.
8h15, il y a une grande messe des Hells Angels qui est prévue ce week-end en Montérégie, dans le coin de Saint-Hyacinthe.
Ouais.
Et c'est plus de 700 motards qui vont y participer. Donc, il y a un branle-bas de combat, évidemment, du côté des autorités pour s'assurer que tout se déroule bien. On s'entend que c'est pas des enfants de cœur qui vont être réunis là en Montérégie ce week-end.
Non, c'est le Grand Canada Run. Ça se passe presque à chaque année, mais un peu partout au Canada, justement. Puis cette année, ben, c'est le Québec qui reçoit ce genre d'événement-là. Puis c'est surtout pour montrer que les motards sont bel et bien là, sont de retour après Shark qui a, bon, plus ou moins fait effet. C'est une façon pour eux de se promouvoir. Puis la problématique en arrière de ça, c'est que la police va falloir qu'elle soit très, très, très près de ces gens-là parce que ça reste des criminels.
Absolument. Et pour discuter justement des mesures entourant ce grand rassemblement des Hells Angels, on va aller rejoindre le directeur des communications de la Sûreté du Québec, Guy Lapointe. Monsieur Lapointe, bonjour.
Bonjour.
À quel point on est préoccupé par un rassemblement de cette ampleur des Hells Angels dans Montérégie ce week-end?
Bien, on est préoccupé dans la mesure où vous l'avez mentionné. Là, c'est des individus criminalisés qui adhèrent à des groupes criminels qui se réunissent en grand nombre. Donc, pour nous, c'est clair que l'objectif ultime, c'est une démonstration de force qui est faite. Récemment, dans les dernières années, ça s'affiche encore plus qu'il le faisait auparavant, en toute impunité. Donc, pour nous, ça, c'est sûr, c'est la facette qui est préoccupante. Par contre, il faut rassurer les gens et expliquer que pour la population générale, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque pour la sécurité. Mais à tout événement, nous, on va être présents à très grand nombre pour s'assurer justement qu'ils respectent les lois, que ce soit le code criminel, le code de la sécurité routière, les règlements municipaux, et s'assurer que ça se fasse dans l'ordre.
Est-ce qu'il y a une collaboration de la part des motards avec les forces policières? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'il y a des gens dans la Sûreté du Québec qui sont en contact avec eux pour leur dire, hey, les boys, on vous surveille, puis avisez-vous pas de faire de la chenoute pendant le week-end?
C'est sûr qu'il y a eu des contacts. En même temps, c'est sûr aussi qu'ils connaissent le tabac. Là, on ne se cachera pas. C'est pas le premier rassemblement de gens qu'ils vont faire. Puis ils n'ont pas intérêt non plus à se faire arrêter pour des dossiers mineurs, que ce soit des capacités affaiblies, des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas intérêt à faire d'erreurs en ce sens-là. Mais quand même, nous, l'objectif, c'est de s'assurer de garder dans le rang et vraiment d'être présents, nous autres aussi, pour leur enlever toute envie qu'ils pourraient avoir de peut-être troubler l'ordre public, par exemple.
Jusqu'à quel point vous avez la possibilité
possibilité de les encadrer? Parce qu'on se rappelle, dans le temps, ben, on les voyait, mettons, à la sortie des mariages, partir sans casque sur la tête ou encore, justement, décider que c'est eux qui prennent possession du lieu où ils sont. Jusqu'à quel point, maintenant, on est capable de les encadrer?
Ah ben, je peux vous garantir que s'ils décident d'enfourcher leur moto et partir sans casque, ils vont nous trouver sur leur chemin. Je l'ai dit, on applique toute la réglementation. Puis là, on pense beaucoup criminel, on pense code de sécurité routière, comme vous disiez, là, les casques, par exemple. Règlements municipaux aussi, en termes de bruit, ces choses-là. On applique la loi à la lettre. On est présents très nombreux. Et de façon systématique, s'il y a des infractions qui sont constatées, on va les intercepter. Donc, je m'attends pas à ce qu'il y ait ce genre de comportement de la part de ces individus-là.
Est-ce qu'ils ont une appréhension de la part des gens dans la région? Parce que, notamment, ils ont réservé quelque chose comme 350 chambres d'hôtel. Est-ce que les commerçants vous font part de leurs opérations d'avoir ce type de clientèle-là?
Non, il y a eu des contacts qui ont été faits avec les élus. Il n'y a pas de préoccupation particulière autre que de savoir, bon, est-ce que vous allez être présent? Est-ce que vous allez être là? Est-ce que vous allez prendre ça en charge? Puis, ce qu'on a constaté au cours des dernières années, là, c'est un drôle de changement d'attitude de certaines parties de la population face à ces gens-là. On a constaté, il y a 2 ans, le Canada Run s'est déroulé dans la région d'Ottawa, puis on a constaté une certaine sympathie. Ce qu'on appelle un peu, nous, dans le jargon, un phénomène Sons of Anarchy. Ouais. Et ça découle d'une série télévisée américaine qui mettait justement en vedette des motards criminalisés. Et là, on a vu à Ottawa des gens se rendre sur place pour aller prendre des selfies, là, des éco-portraits avec des motards. Ça, on n'avait jamais vu ça précédemment. C'est pour ça que nous, on s'assure de rappeler aux gens que ces gens-là, là, c'est des criminels. Là. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de scénario, c'est pas des acteurs. Il y a des gens qui sont morts au fil du temps. C'est des gens qui ont recours à la violence, à l'intimidation. C'est des bandits. Là. Il n'y a pas d'autres mots pour les décrire que ce sont des criminels.
Mais pourtant, puis c'est intéressant que vous nous ameniez sur cette piste-là, M. Lapointe. Là, je pense à des pages Facebook, des items de avec les logos et autres. Là, on en voit énormément dans les événements publics, des Support 8-1 et autres, des Hells Angels. Outre une série télé, pourquoi les gens sont fascinés par les motards?
C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a une partie de la population qui n'a pas nécessairement connu la guerre des motards qui a fait rage dans les années 90. Je pense que ces gens-là ne connaissent pas le niveau de violence dont ces individus-là sont capables. Je pense que c'est la principale raison. Il y a aussi le phénomène, comme je vous le disais, qui est relié à cette série américaine-là. Mais il ne faut pas se leurrer. Là. Ces individus-là continuent à vaguer à leur occupation criminelle. Les Hells Angels, présentement, sont à peu près les seuls sur le territoire québécois en sens qu'il n'y a personne pour s'opposer à eux. Là. Ce sont les gens qui contrôlent 98%, je vous dirais à peu près, du marché de trafic de stupéfiants au Québec. Il n'y a aucune organisation criminelle qui est capable présentement de faire tête, d'affronter les Hells Angels, si vous voulez, dans une guerre de territoire, par exemple.
Est-ce que c'est le plus gros rassemblement qu'on va connaître au pays, le Canada Run? Là? Est-ce que c'est le plus gros rassemblement de motards criminalisés qu'on peut connaître pendant une année?
Ben, je vous dirais que oui, parce que c'est un événement annuel qui se déplace d'une province à l'autre à chaque année, auquel sont tenus de participer l'ensemble des membres en règle des Hells Angels au Canada. Donc, au Canada, on parle d'à peu près 500 membres en règle répartis dans une quarantaine de chapitres. Ici, au Québec, on en a à peu près 80 dans 5 chapitres. Et à moins d'être incarcérés ou d'avoir, par exemple, des conditions de remise en liberté qui leur empêcheraient de participer, ils sont tenus d'être présents à l'événement. Donc, à ça s'ajoute ensuite tous les groupes supporters, là, les groupes qui gravitent autour des Hells Angels, qui risquent d'avoir des représentants aussi. C'est pour ça qu'on évalue là, facilement là, entre 5 et 700 motards qui devraient être sur place au cours du week-end.
On avait l'impression que ça avait été éradiqué, ce mouvement-là, un peu de motards criminalisés, mais là, on entend parler depuis quelques années qu'au contraire, c'est pas mal de retour et de façon assez intense. Mais à quel point ça l'est?
Ben, il y a différents facteurs qui expliquent ça. Là, dans un premier temps, il y a eu différentes décisions judiciaires dans les dernières années qui leur ont été favorables. Donc, ça leur a inévitablement fait en sorte que des individus qui ont été remis en liberté, du côté de la mafia italienne, par exemple, bon, des organisations, c'est pas clair encore comment ils vont se restructurer. Donc, il y a un paquet de facteurs, un paquet de variables qui font en sorte que c'était propice pour que les Hells reprennent du poil de la bête, si vous me permettez l'expression. Et là, maintenant, ils s'affichent plus que jamais. Là, dans toute impunité. l'été, ils vont porter leurs couleurs, ils vont porter leurs vestes un peu partout. Là on parle de ce rassemblement-là, mais ça peut être des événements sportifs, des combats de boxe, des bike and tattoo shows, ça peut être différents événements où ils vont s'afficher, ce qu'on voyait pas depuis quelques années. Et c'est pour ça que de notre côté, on a aussi revu notre façon de faire. À l'automne 2017, lors d'une réunion avec l'ensemble des officiers des corps de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, le directeur général, a fait de sa priorité, sa première priorité, la lutte au crime organisé, donc aux Hells Angels. Et c'est pour ça que maintenant, on a modulé un peu notre façon de faire. Je donne un exemple. On a mis en place ce qu'on appelle notre division de l'intervention. Ce sont des policiers, des agents de renseignement spécialement formés qui vont être présents à tous les endroits où les motards vont s'afficher. Donc, en clair, ils s'affichent, on s'affiche nous aussi, on est présents. On leur fait sentir notre présence, justement, pour décourager ceux-ci, non seulement de s'afficher en toute impunité, mais aussi de prendre possession de lieux, si vous voulez, comme par exemple des événements sportifs.
Pour des jeunes policiers qui n'ont pas connu la guerre des motards puis qui ont moins connu ce contexte-là, ça doit être quand même intimidant comme contexte, comme nature d'intervention. Est-ce qu'il doit y avoir une préparation particulière pour eux?
Bien, c'est sûr que l'ensemble des patrouilleurs, des policiers qui vont être appelés à intervenir en fin de semaine, il va avoir des briefings qui vont être faits, il va avoir des consignes qui vont être données. Mais je vous dirais, la plupart là, de nos policiers, la très grande majorité sont des professionnels, ont pas de problème à faire leur travail. On a vu notamment une vidéo qui a paru sur les médias sociaux la semaine dernière là, d'un de nos policiers qui a intercepté seul 6 motards. Puis je pense que quand on regarde la vidéo, on comprend qu'il n'est pas intimidé du tout. Là. Il fait son travail, il fait très bien d'ailleurs, en ce qui nous concerne, c'est une très bonne intervention.
Mais je m'en allais là.
Non,
continuez, excusez-moi.
Non, c'est ça. Donc, c'est un peu ce qu'on s'attend de nos policiers, là, justement, qu'ils fassent leur travail avec professionnalisme, mais qu'ils soient capables de tenir tête à ces individus-là et qu'ils ne se laissent pas intimider.
Je m'en allais là dans vos relations avec les motards criminalisés et la sûreté, les policiers, n'importe qui ont affaire avec ces gens-là. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez certains agents qui essaient d'avoir un terrain d'entente avec ces gens-là? Est-ce que vous travaillez sur les relations ou c'est vraiment à feu et à sang? Je ne veux pas le dire comme ça, là, parce qu'on n'est pas là, là.
Ben en fait, il y a pas tellement de négociations possibles. Ces gens-là sont des criminels. Ils opèrent des organisations qui font de l'argent, du profit d'actes criminels. Donc, de notre côté, notre travail à nous, c'est de mener des enquêtes et de faire incarcérer ces individus-là. Il y a peu ou pas de discussions. Bon, il peut y en avoir dans un contexte comme celui d'un fin de semaine prochaine, mais on se leurra pas, là. C'est pas parce que ces individus-là portent des couleurs, sont des motards, qui ont un statut particulier, là. Pour nous, ce sont des criminels. Puis on les traite de cette façon-là en menant des enquêtes et en s'assurant justement, lors de rassemblement, qu'ils vont respecter la loi. On leur fait pas de quartier, ça c'est certain.
Monsieur Lapointe, merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Guy Lapointe est directeur des communications de la Sûreté du Québec. On discutait avec lui du Canada Round, grand messe des motards criminalisés du Canada qui va se tenir à Saint-Hyacinthe cette fin de semaine. Pas loin de 700 motards qui sont là. Moi, personnellement, si j'étais propriétaire d'hôtel, je ne passerais pas le meilleur week-end de ma vie.
Ouais. Même si on sait,
on sait qu'ils ne vont pas te sauter dessus. Là. Les motards criminalisés, c'est rare qu'ils vont sauter sur monsieur et madame tout le monde.
Ils ont des raisons, normalement.
Il faut que tu sois dans leur entourage, que tu gravites autour d'eux autres. Mais moi, j'aime beaucoup la philosophie SQ qui est pas de quartier. C'est pas parce que tu es dans une organisation criminelle, que tu as un crest, que tu es intimidant, que tu fais les gros bras, que tu fais des gros rassemblements, puis qu'il y a une certaine sympathie de la part de la population, que tu vas te faire traiter autrement que le criminel à deux scènes qui va décider de faire une agression armée dans Saint-Roch. C'est pas parce qu'ils sont dans un groupe organisé qu'on doit pour autant les encourager.
Non, puis je trouve ça intéressant de savoir justement que là, en 2018, il va y avoir moins de passe-droits. Pas qu'il y en avait nécessairement avant, mais je veux dire que les relations quand même, quand je vous dis le mariage, les gens qui partaient pas de casse, là, les Hells Angels, il n'y avait pas d'arrestation là. C'est un petit peu moins sévère peut-être pour une raison que j'ignore. Là, j'étais trop jeune pour le comprendre aussi. Là, mais je trouve ça intéressant d'entendre justement tous les changements qui ont été faits, qu'ils sont prêts parce que au bout du compte, c'est pas un carnaval ce qui va se passer à Saint-Hyacinthe.
Mais c'est sûr qu'il y a des discussions, c'est sûr qu'il y a des agents qui sont en contact puis qui sont de façon relativement civilisée avec eux autres puis qu'il y a une espèce de jeu de chat à souris, qui chope et de souris qui se joue entre les deux.
Mais
c'est sûr qu'il y a des relations qui sont liées entre les deux parce que c'est comme ça qu'ils sont capables de rester sur un ton qui est relativement respectueux. Puis c'est sûr non plus qu'ils vont pas faire les imbéciles parce qu'ils savent très bien qu'il peut avoir des conséquences directes à leurs actes. Là. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui sont passionnés de Hells Angels, qui portent des couleurs de Tate One. T'envoies tout le temps, t'envoies des centres d'achat. T'envoies des centres d'achat, t'envoies un peu partout, là, les gens qui idolâtrent comme si c'était une vie de rêve d'être un moteur criminalisé. Ben,
comme si c'était un club d'hockey.
Ouais, c'est ça.
Ou les femmes qui trippent sur ces hommes-là aussi, là.
Ouais.
Pourquoi?
C'est un autre débat. Mais oui, vous avez, il y a une clientèle, il y a toujours une clientèle pour ce type d'individu-là. Mais sachez que la SQ les surveille de près. 8h27.